Vous écoutez bien Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez. RFI Midi, suite et fin en Haïti, sur le continent américain, durant la prochaine demi-heure.
RFI Midi. Anne Cantner.
Nous parlerons des critiques qui se font entendre en Haïti au lendemain de la désignation d'un président du Conseil présidentiel de transition et d'un Premier ministre dans la foulée. Le tout sans vote, mais en vertu d'un accord entre quatre formations politiques. Reportage aussi au Panama. Vous entendrez le désir des jeunes électeurs de voir la classe politique se renouveler. Ce n'est pas facile et ce ne sera sans doute pas le cas pour l'élection présidentielle qui est prévue ce dimanche. Et comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de ce maire de Guadeloupe qui demande la levée du couvre-feu pour les mineurs.
Oui, il n'y a pas que Pointe-à-Pitre. Deux quartiers de la commune des Abîmes sont également concernés par ce couvre-feu et le maire de cette commune plaide pour davantage de prévention plutôt que de restriction.
À tout à l'heure. Et avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale avec vous, Gilles Moreau. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est en Israël. Nouvelle étape de sa tournée au Proche-Orient.
Oui, il a rencontré ce matin à Jérusalem le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le secrétaire d'État lui a redit l'opposition américaine à un assaut sur la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Anthony Blinken s'est dit déterminé à obtenir dès maintenant un accord de trêve avec le Hamas, accord associé à une libération d'otages. Le parti palestinien n'a pas encore répondu à une proposition prévoyant un arrêt des hostilités pendant 40 jours.
Et cette guerre à Gaza mobilise toujours sur les campus américains.
Oui, des affrontements ont éclaté à Los Angeles entre des manifestants pro-palestiniens et un groupe de contre-manifestants. Alors qu'à New York, la police a maintenant délogé les manifestants à Columbia. David Thompson, bonjour, vous êtes en direct de New York.
Oui, ce matin, l'université de Columbia se réveille dans le calme. Les entrées ne sont plus contrôlées par des manifestants pro-palestiniens, mais par la police de New York. Plus de slogans anti-Israël, plus de drapeaux palestiniens, plus de villages de tentes non plus. Par bus entier, cette nuit, tous les manifestants ont été évacués par la police et une centaine d'entre eux ont été arrêtés. Cette nuit, en deux heures, la police a fait place nette, intervention musclée. Des centaines d'agents en tenue anti-émeute ont pris le contrôle de ce campus qui était devenu en deux semaines l'épicentre de la contestation estudiantine contre la guerre à Gaza, et ce sans faire de blessés et sans rencontrer de résistance. Les policiers sont d'abord entrés par une fenêtre du bâtiment occupé avec un véhicule d'intervention muni d'une grande échelle. À l'intérieur, ils ont levé toutes les barricades et en ont sorti les manifestants l'un après l'autre. L'intervention s'est déroulée à la demande de la direction de Columbia et cette direction demande aujourd'hui à la police de rester là jusqu'au 17 mai au moins pour empêcher les manifestants de revenir. Cette séquence s'invite évidemment en pleine campagne à 6 mois de la présidentielle. Hier soir, Donald Trump commentait en direct ces images sur la chaîne Fox News en accusant son rival démocrate d'inaction. Biden doit faire quelque chose contre ces agitateurs, dit le candidat républicain. On doit faire cesser cet antisémitisme qui gangrène le pays, dit Trump, qui veut faire de ces protestations, évidemment, le symbole de l'Amérique de Biden.
David Thompson en direct de New York pour RFI.
L'Équateur a répondu au Mexique devant la Cour internationale de justice.
Le Mexique qui accuse l'Équateur d'avoir violé la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Cette affaire a commencé le 5 avril quand la police équatorienne a pénétré dans l'ambassade du Mexique à Quito. C'est là qu'elle a arrêté l'ancien président équatorien Jorge Glass, condamné dans son pays pour corruption mais qui avait demandé l'asile au Mexique. L'Équateur a répondu aujourd'hui au Mexique qu'il accuse d'avoir franchi une ligne rouge. Correspondance à La Haye de Stéphanie Maupas.
Quito a accusé Mexico ce matin d'avoir abusé de l'enceinte diplomatique pour y accueillir l'ex-vice-président d'Équateur, alors que le Mexique demande au juge de délivrer une ordonnance d'urgence interdisant à l'Équateur de pénétrer de nouveau dans l'ambassade. Le représentant de Quito à La Haye, Andrés Parral, a garanti à la Cour que l'arrestation du 5 avril était exceptionnelle et qu'il n'y avait donc pas besoin d'une ordonnance contre son pays.
Monsieur le Président, la raison pour laquelle les événements du 5 avril étaient exceptionnels est très simple. Mexico a abusé pendant des mois de ses locaux diplomatiques pour abriter un criminel de droit commun qui a été dûment condamné à deux reprises par la plus haute cour d'Équateur pour des délits très graves liés à la corruption.
L'affaire est loin d'être finie. Peu avant le début des audiences mardi, l'Équateur a à son tour déposé une plainte contre le Mexique. Stéphanie Mopala et RFI.
En Géorgie, les autorités annoncent les arrestations dans la nuit d'une soixantaine de manifestants pro-européens. C'était lors d'un rassemblement à Tbilissi, la capitale. Rassemblement violemment réprimé par la police. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a réagi en condamnant fermement le recours à la force.
En ce 1er mai, c'est la fête des droits des travailleurs partout dans le monde.
Oui, en France, un incident ce matin à Saint-Étienne. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste aux européennes, a été empêché de rejoindre un cortège du 1er mai. Il a été visé par des jets de peinture par une cinquantaine de manifestants, dont certains portaient des drapeaux palestiniens. Raphaël Glucksmann accuse ses rivaux de la France insoumise.
On va voir qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution Permanente et de la France Insoumise. Donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout. Ils ont décidé que, alors qu'on a une extrême droite à 40%, 80% de leurs tweets à l'AFI sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste Place Publique. Donc à un moment, ils ont choisi leur adversaire. Nous, notre adversaire, ça reste Jordan Bardella. Nous, notre adversaire, ça reste la montée de l'extrême droite.
Raphaël Glucksmann, propos recueillis par Raphaël Delvolvé. Réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Je désapprouve totalement l'expulsion de Raphaël Glucksmann. L'ennemi, dit-il, c'est l'extrême droite. Avec la mort de Paul Auster, c'est un grand écrivain américain qui s'en va. Auteur d'une trentaine de livres, il a été traduit dans plus de 40 langues. L'auteur de trilogies new-yorkaises est décédé à son domicile de Brooklyn à New York. À 77 ans, Paul Auster se battait contre le cancer.
Et puis, il y a 30 ans, Ayrton Senna trouvait la mort au volant de sa Formule 1.
Oui, c'était le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola en Italie. 30 ans après, le grand champion reste une légende dans le monde entier, et surtout, bien sûr, dans son pays, le Brésil. Reportage à Rio de Janeiro de Sara Cozzolino.
Perché à la première place du podium, Ayrton Senna brandit le drapeau brésilien en face du Copacabana Palace. Carlos prend un selfie avec la statue de la légende brésilienne le long de la plage.
Dans l'imaginaire des Brésiliens, c'est un surhomme. Il avait quelque chose de supérieur. Il était capable de renoncer à une course pour sauver un collègue. Pour moi, il était fantastique.
Le triple champion du monde n'était pas qu'un pilote hors pair. Il avait un charisme incroyable, selon Reinaldo.
Je n'ai jamais été fan de Formule 1, mais j'étais fan d'Ayrton Senna. Je regardais les courses uniquement pour lui, pour le soutenir. Je pense qu'après Senna, nous n'avons plus eu d'idole de ce type.
Mort au sommet de sa gloire, son tragique accident fait partie des jours dont on se souvient exactement où l'on était. Fernanda avait 15 ans, elle regardait la télévision en famille.
Ça faisait partie de notre culture. On se réveillait le dimanche matin et on regardait les courses. Ou alors on demandait quelle était la position d'Ayrton Senna. Je me souviens que ça a été un deuil national.
Trente ans plus tard, elle se souvient encore de la musique de la victoire. Son fils a 10 ans, il n'a pas connu Senna vivant, mais la légende est encore intacte. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et à propos encore de Formule 1, on apprend le prochain départ de l'ingénieur britannique Adrian Newey, l'artisan des succès de Red Bull. Il va tourner la page début 2025 de presque 20 ans d'histoire aux côtés de l'écurie championne du monde en titre. Un mot de tennis, enfin place au quart de finale au tournoi sur terre battue de Madrid. Tournoi qui continue sans l'idole du public espagnol, Rafael Nadal. À 38 ans, il a fait ses adieux à Madrid hier soir après avoir été sorti par Jiří Leška, 31e mondial. C'est un jeune tchèque. Anne, c'est à vous.
Merci Gilles Moreau. 15h09 à Paris.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On prend donc la direction d'Haïti où un visage s'affiche en une de toute la presse ce matin, celui d'Edgar Leblanc fils, désigné hier pour prendre la tête du conseil présidentiel de transition. Sans vote, mais sur décision d'une majorité des membres de ce conseil. Notre correspondante à Port-au-Prince, Marie-Andrée Bélange, a assisté à la cérémonie.
Après environ 2 heures d'attente, le représentant de la société civile au conseil, Frinel Joseph, monte sur l'estrade avec une annonce qui surprend l'assistance.
Une majorité a été dégagée et une entente autour de Edgar Leblanc fils a été trouvée pour que Edgar Leblanc fils soit donc le président du conseil.
Cette majorité a aussi fait le choix de l'ancien ministre haïtien des Sports, Fritz Belizer, comme chef du gouvernement, a poursuivi Frinel Joseph. Avant que le président du Conseil, fraîchement élu, Edgar Leblanc-Fils, ne prononce son premier discours. Une prise de parole sous les applaudissements et marquée d'une promesse, celle d'apporter une solution à la crise sécuritaire.
Hier, pendant toute la journée,
nous avons rencontré pendant toute la journée de lundi le haut commandement de l'armée, le commandement élargi de la police, les unités particulières chargées de la sécurité du palais national et des conseillers, pour évaluer au mieux la situation et y répondre de la façon la plus efficace possible. Toutes les parties sont déterminées à prendre cette question de l'insécurité à bras-le-corps.
Marie-André Bélange, Port-au-Prince, RFI.
Et à peine désignés, le président du Conseil et le Premier ministre sont déjà contestés. Le choix par une majorité des membres du Conseil de Fritz Belizer ne fait pas l'unanimité à Blajounaïdi. Quelques heures seulement après les annonces d'hier, des divisions sont apparues au grand jour entre les différents blocs politiques représentés au sein du Conseil présidentiel de transition.
Oui, il faut le dire quand même, Anne, beaucoup d'Haïtiens saluent aujourd'hui un pas dans le bon sens avec la nomination d'un président et d'un Premier ministre. Il faut dire que ce Conseil était très attendu, mais des voix critiques se font entendre. En effet, c'est le cas du bureau de suivi de l'accord de Montana, un groupement issu de la société civile, représenté au sein du Conseil par Fritz Alphonse Jean, même si lui, Anne, n'a pas signé le communiqué publié hier par son organisation. Que dit-elle dans son communiqué ? Eh bien, elle dément qu'il y ait eu consensus dans le choix des personnes désignées. Pour l'accord du Montana, le processus prévu par l'accord politique du 3 avril dernier n'a pas été respecté.
Et ce groupement va même plus loin, Abla.
Oui, d'après lui, je cite, « des forces mafieuses, politiques et économiques ont décidé de prendre le contrôle du Conseil et du gouvernement pour continuer à contrôler l'État et se partager le gâteau ». Fin de citation. Une référence aux quatre blocs qui ont porté leur choix hier sur le président et le Premier ministre. Ils comptent dans leur rang plusieurs anciens membres des gouvernements passés, que ce soit sous le président Michel Martelly, Jovenel Moïse ou sous le gouvernement contesté d'Ariel Henry. Le représentant de Formila Valas au Conseil lui aussi conteste la procédure. Interrogé par le Nouvelliste, Leslie Voltaire estime que le bloc majoritaire qui s'est entendu pour nommer le Premier ministre Fritz Belizer aurait dû soumettre ce choix d'abord aux autres membres. Jusqu'où ira la contestation ? Les prochaines heures le diront. En tout cas, Anne, on est loin de l'esprit de consensus vanté hier par le nouveau président Edgar Leblanc-Fils.
La chose la plus importante pour nous, c'est la cohésion entre nos membres. C'est la volonté, la détermination à dépasser les chapelles, les conflits et à arriver par consensus et à partir de discussions, de négociations, aux décisions importantes à prendre et d'abord en matière de sécurité.
Voilà les premiers mots du président de ce Conseil présidentiel de transition. Alors, faut-il y voir un certain malaise ou juste de la prudence ? Les réactions internationales, en tout cas, se font encore attendre.
Oui, pour le moment, seul le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, s'est fait entendre publiquement. Ni l'ONU, ni les États intéressés par la transition n'ont émis d'avis sur les nominations d'hier. Sur le réseau X, le diplomate uruguayen a salué le choix du président Edgar Leblanc-Fils. Mais il a lui aussi souligné que la désignation dans la transparence et le respect des règles d'un Premier ministre était vitale pour la stabilité d'Haïti, une critique à peine voilée du processus qui a mené à la désignation de Fritz Belizer.
Merci à Blajounaïdi.
RFI, The World's Voices.
Les campus des grandes universités américaines, toujours au cœur de la mobilisation pour la cause palestinienne, et ça chauffe dans certains établissements. Il y a eu des affrontements entre protestataires et policiers à UCLA, à Los Angeles, après l'entrée sur les lieux au milieu de la nuit de manifestants masqués et tout habillés de noir. Intervention aussi à Columbia, à New York. Le campus a été complètement évacué hier par la police, qui dénonce la présence d'agents extérieurs.
We are seeing professional external actors getting involved in these protests, including in the occupation of a university building. These people are not.
Vous entendez le commissaire de la police de New York. Nous voyons des acteurs professionnels externes s'impliquer dans ces manifestations, y compris l'occupation d'un bâtiment universitaire. Ces personnes ne sont pas des étudiants de Columbia. Elles ne sont pas affiliées à l'université et s'efforcent d'envenimer la situation. Voilà ce que disait la police hier soir. La situation, elle est nettement moins tendue en revanche à l'université de Brown dans le nord-est. Là, la direction a trouvé un accord avec les manifestants, démantèlement du campement en échange d'un vote en octobre prochain sur un désinvestissement des entreprises qui rendent possible et profite du génocide à Gaza, selon les termes de l'accord trouvé hier. Dans ce contexte, un mauvais signal pour l'administration Biden. La diplomate Alaa Rarit démissionne et elle s'en explique dans les colonnes du Washington Post, Marine Le Beg.
Oui, Alaa Rarit est très claire. Je ne serai pas la raison pour laquelle quelqu'un déteste davantage l'Amérique. Elle ne veut plus être le visage de la diplomatie américaine auprès des médias arabes. Au début, je pensais que ce serait passionnant, confie-t-elle encore au Washington Post, mais aujourd'hui, elle est la première diplomate de carrière à démissionner depuis le 7 octobre et le soutien indéfectible des États-Unis à Israël qui a suivi. En cause, plaide-t-elle, une politique qui fera reculer les intérêts de Washington dans le monde arabe pendant une génération. Pour le Washington Post, cette démission illustre la division que cette guerre a provoquée au sein de l'administration Biden, car si Alaa Rarit n'est pas la seule à désapprouver la politique étrangère des États-Unis au Proche-Orient, nombre de ses anciens collègues craignent d'être sanctionnés s'ils expriment leurs opinions, assure l'ex-diplomate au journal.
Et puis toujours à propos des États-Unis, en Floride, les autorités portent un nouveau coup au droit à l'avortement. Ce 1er mai marque l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi qui réduit le délai pour avorter de 15 à 6 semaines seulement. C'est-à-dire à un moment de la grossesse où certaines femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. La vice-présidente Kamala Harris est attendue sur place pour condamner cette loi extrêmement restrictive.
RFI, la radio del mundo.
J-4 avant l'élection présidentielle au Panama, un scrutin très incertain, à un seul tour et sans aucun favori clair. Le pouvoir a toujours été partagé au Panama entre deux, trois partis de droite. Et même si beaucoup d'électeurs sont lassés, aimeraient voir d'autres figures émerger, eh bien il est difficile de faire bouger les lignes. Compliqué de renouveler la classe dirigeante dans un pays où l'administration publique est rongée par la corruption. C'est notre dossier du jour, un reportage à Panama de notre correspondant Grégoire Portier.
Les partis au pouvoir, ce sont toujours les mêmes et on a bien vu qu'ils n'ont jamais rien fait. Et aujourd'hui, ils se ressemblent tous.
Yasminda Martinez travaille dans un centre de tri. Les cartons, les différents types de plastique, le verre, les canettes, tout s'y recycle. Un peu comme la classe dirigeante panaméenne finalement. Car si les scissions et alliances politiques se sont multipliées ces dernières années, à l'arrivée, les têtes d'affiche de cette présidentielle sont souvent bien connues. Un ancien chef de l'État, Martín Torrijos, et plusieurs anciens ministres et députés sont ainsi parmi les favoris, malgré des bilans jugés décevants quand ils étaient aux affaires. Alors certes, le pays reste stable et peut toujours compter sur la manne financière du canal de Panama. Mais son économie ne décolle pas et les tensions sociales sont de plus en plus vives. Pourtant, cette année encore, les programmes ne proposent rien de très nouveau et se ressemblent souvent, les principaux candidats venant tous du même moule. Yasminda espère pourtant du changement.
Il faut enfin donner sa chance à un indépendant pour voir s'il peut améliorer le pays. Le Panama a tellement de problèmes. Il y a énormément de pauvreté. Et puis la corruption, il y a beaucoup de corruption.
La lutte contre ce fléau est un engagement majeur de tous les candidats, mais ces belles promesses sont répétées tous les 5 ans. Guide et interprète, Gabriel González est ainsi remonté contre le gouvernement sortant.
Les gens sont très mécontents vis-à-vis à leur politique et leur façon de faire. D'autant plus c'est la corruption énorme qu'on est en train d'avoir et de voir. Il y a toujours eu, mais elle se voit plus qu'avant. Les gens sont beaucoup plus ouverts à la recherche de voir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, je crois que la jeunesse va jouer un point assez important. C'est une jeunesse un peu plus informée qu'avant et un peu plus réveillée qu'avant.
Rencontré dans un de ces gigantesques centres commerciaux qui pullulent à Panama, Carlos, un étudiant de 22 ans, va justement voter pour la première fois. Davantage par rejet que par conviction, dit-il, en attendant qu'une future génération de politiciens indépendants prenne le relais.
On ne peut pas encore garantir que les indépendants amélioreront les choses, mais il faut leur donner l'opportunité. On a déjà vu ce qu'ont fait les anciens gouvernements, toujours les mêmes partis et les mêmes résultats. Ce serait intéressant d'essayer autre chose, non? Pour les années à venir, il y a des gens avec de bonnes idées. Alors peut-être que lorsqu'ils auront la possibilité d'être candidats à la présidence, on verra un vrai changement. Mais pour le moment, cela me semble encore loin.
Lors de ce scrutin, si l'avocat et homme de médias Ricardo Lombana pourrait créer la surprise, c'est surtout à l'Assemblée nationale qu'une poussée des indépendants est envisagée. Mais cet attrait pour cette nouveauté un peu fourre-tout n'est-il pas un trompe-l'œil ? En province, le réflexe familial et le clientélisme des partis traditionnels leur garantissent une audience importante. Gabriel González.
La ville de Panama, il y a la partie des gens éduqués du pays, où la plus forte concentration. un président actuel qui a gagné. Il est allé chercher le vote des gens de la campagne et c'est là où il a gagné.
La plus grande incertitude règne donc, d'autant que le favori des sondages, l'ancien chef de l'État Ricardo Martinelli, a récemment été condamné à 10 ans de prison pour blanchiment d'argent. Il ne peut plus postuler et son prête-nom, José Raúl Mulino, n'a pas le même charisme. Derrière lui, plusieurs croient ainsi en leur chance, notamment Romulo Roux, lui aussi ancien ministre de Martinelli, qui avait été battu de justesse en 2019. Dans un scrutin à un seul tour, avec 8 candidats et un parti au pouvoir discrédité, tout semble possible. Grégoire Pourtier, Panama, RFI.
Reportage donc de notre correspondant au Panama avant l'élection présidentielle qui se tiendra dimanche dans le pays. Au Salvador, c'est ce 1er mai le début de la nouvelle législature, Marine Le Bègue.
Oui, avec un parlement composé à 95% de membres du parti au pouvoir, élus lors des dernières élections. Avant-hier, explique Contrapunto, les députés du Salvador ont modifié une loi qui permet désormais de changer rapidement et plus facilement la constitution du pays. Avec cette réforme, le vote de seulement 3/4 des députés est nécessaire pour modifier la charte fondamentale. À partir d'aujourd'hui, l'Assemblée se réduit à 60 députés, alors le média salvadorien a fait les comptes. Seulement 45 voix de députés seront donc nécessaires pour modifier la constitution, un chiffre que le parti de Nayib Bukele, avec 54 sièges obtenus lors des dernières élections, pourrait atteindre à lui tout seul.
Mais la presse met le doigt sur un gros problème de constitutionnalité.
Oui, la Prensa Grafica rapporte les propos d'un avocat spécialisé selon lequel un tel amendement doit obligatoirement être approuvé avant les élections. Or, les élections, c'était en février dernier et personne n'y avait fait allusion à l'époque. Un détail balayé par le président de l'Assemblée législative qui assure à la Prensa Grafica répondre à la demande des habitants du Salvador. Vous pensez qu'ils font ça pour améliorer les droits de la population ? Eh bien non, tranche l'avocat auprès du journal.
Le 1er mai marqué en Colombie par des manifestations, c'est la fête des droits des travailleurs. Et le président en profite pour repartir à la conquête de la rue après des manifestations contre lui il y a une dizaine de jours. Gustavo Petro participera au cortège tout à l'heure et il appelle tous ses partisans à faire de même. Et puis les Argentins, eux aussi, manifestent aujourd'hui avec en ligne de mire la réforme du Code du travail adoptée hier par les députés. Les Argentins marcheront également pour dénoncer la perte de pouvoir d'achat des salariés depuis l'élection de Javier Milei en novembre dernier.
RFI, les voix du monde.
Un grand écrivain vient de disparaître. L'auteur américain Paul Auster est décédé hier, il avait 77 ans. Paul Auster, passionné toute sa vie par la littérature. Écoutez-le parler du pouvoir des mots et du plaisir de la lecture.
Pour moi, écrire, c'est comme écrire la musique. Pas avec les notes, mais avec les mots. C'est des rythmes, des poèmes ou des proses qui donnent les sens en supplémentaire au sens littéral des mots dans le dictionnaire. Combinaison des mots, la lenteur ou vitesse des phrases, les contrastes. Je crois que les lecteurs les plus sensibles savent ça, même s'ils ne peuvent pas articuler ça. Le plaisir qu'on prend de lire un écrivain qui écrit bien, c'est un plaisir physique.
La voix de Paul Auster disparue hier et toute la presse américaine lui rend hommage aujourd'hui. En particulier le grand quotidien édité dans sa ville. Le New York Times salue l'un des écrivains les plus emblématiques de sa génération, Marine Le Bègue.
Paul Auster, le saint patron du Brooklyn littéraire, titre le New York Times. Car si l'auteur n'est pas né à New York, il l'a choisi en s'installant à Brooklyn, devenant indissociable de sa ville d'adoption, écrit le New York Times. Cette ville qui était un personnage à part entière dans ses œuvres. Mais s'il souligne le lien étroit entre Paul Auster et la grosse pomme, le journal rappelle que l'écrivain était tout aussi adulé en France, où il a reçu plusieurs prix de littérature, devenant l'une de ces rares importations américaines à être adoptée par les Français comme un fils du pays.
Marine Le Bègue pour la revue de presse, à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
En Guadeloupe, le maire de la commune des Abîmes demande au gouvernement la levée du couvre-feu pour les mineurs.
Oui, car il n'y a pas que Pointe-à-Pitre. Deux quartiers de la commune voisine des Abîmes sont également concernés par le couvre-feu mis en place maintenant depuis 10 jours. Et le maire de cette commune plaide pour davantage de prévention. Dans une lettre datée du 29 avril, Éric Jalton, c'est son nom, interpelle Gérald Darmanin. Pascal Pétrine.
Dans cette lettre, Éric Jalton interroge le ministre de l'Intérieur sur le pourquoi d'une telle décision de couvre-feu pour les mineurs de plus de 15 ans dès 20 heures, singulièrement dans ces deux quartiers des Abîmes. Des quartiers qui, selon lui, ne présenteraient pas de faits de délinquance plus importants qu'ailleurs. Et l'édile d'interroger le ministre sur l'absence de renforts de police de proximité et de médiateurs sociaux de terrain et du choix des horaires retenus. Autre questionnement, l'âge des concernés et les créneaux horaires aussi. La limite des moins de 17 ans aurait été plus approprié au vu des statistiques établies en matière de délinquance. Quant au créneau horaire, 23 heures serait plus approprié compte tenu que 60% des actes de délinquance se déroulent hors du créneau choisi par le ministre. Éric Jalton demande au ministre de mettre fin à cette expérimentation, je cite, liberticide et discriminatoire et privilégier des dispositifs préventifs et répressifs ciblés concernant la délinquance et la criminalité. Fin de citation. Et de conclure sur la question du maintien durable ou non du déploiement exceptionnel de forces de l'ordre dans le contexte du couvre-feu qui devrait mécaniquement certes faire diminuer le nombre de délits dans le secteur concerné.
Direction la Martinique où 14 000 emplois seraient à pourvoir depuis le début de l'année, dont 1 200 dans le seul secteur du BTP, des chiffres cités par une étude de France Travail sur les besoins en recrutement. Paradoxal dans un département des Antilles qui compte plus de 29 000 demandeurs d'emploi. Au micro de Manuel Larade, le patron de la collectivité territoriale, Serge Letchimi, affirme que sa collectivité ne baissera pas les bras et qu'elle entend bien jouer son rôle.
Premièrement, je pense qu'il faut tout faire pour former ces jeunes, pas seulement pour les BTP, mais dans d'autres domaines, anticiper sur les formations et négocier avec les entreprises une intégration formation pour les mettre dans le milieu du travail. Certains groupes le font aujourd'hui déjà et il faut, à mon avis, continuer à œuvrer pour valoriser certains métiers. Il y a des métiers qui sont délaissés, notamment dans le BTP, mais aussi dans l'agriculture. Et puis, il y a beaucoup de métiers où on a besoin d'accompagnement à la création. Et ça, c'est notre rôle, la collectivité, d'apporter des contributions pour l'immobilier d'entreprise, pour les prêts d'avance, pour les trésoreries. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons créer un pôle finance à la collectivité territoriale qui conjugue à la fois les fonds européens et les fonds de la collectivité pour l'économie.
Serge Letchimi, président de la collectivité territoriale de la Martinique. Bon après-midi Anne, à demain.
À demain Benoît Ferrand. La musique jusqu'à 13h30, temps universel sur RFI, celle du pianiste Quentin Sirjac avec son morceau Aquarius. Merci à tous d'être avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée ce mercredi par Vincent Biteau. Vous ne bougez pas. Dans quelques secondes maintenant, Pascal Paradou, pour De Vive Voix, va s'interroger sur qui sont les patrons, ce qu'ils font et ce qu'ils nous font à l'occasion de cette fête des droits des travailleurs, 1er mai. Merci à tous et très bonne journée sur RFI.